Bonjour à tous, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui sur Radio Judaïka, une invitée dans le cadre des élections municipales de Strasbourg. Aujourd'hui, Jeanne Barseghian, donc je le disais, candidate tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, avec sa liste Strasbourg, écologiste et citoyenne. Jeanne Barseghian, bonjour.
Bonjour.
Alors, petit portrait avant le jeu des questions-réponses. Vous êtes née en 1980 à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, de parents juristes et avocats. Vous allez vous aussi vous lancer dans les études de droit. Et c'est en voulant vous spécialiser en droit de l'environnement et de l'aménagement du territoire que vous arrivez à Strasbourg en 2002. Et vous resterez à Strasbourg avec un engagement associatif, dont Alsace Nature, qui marque votre premier engagement écologique public. C'est en 2013 que vous rejoignez Europe Écologie Les Verts et que vous coordonnerez la rédaction du programme avec les municipales de 2014. Vous exercez une mandature en qualité de conseillère municipale et conseillère de l'Eurométropole avec de nombreuses délégations, comme la commission de protection des sites, par exemple, jusqu'à aujourd'hui où vous vous êtes investie tête de liste aux élections municipales de Strasbourg. Alors Jeanne Barseghian, on a envie de vous demander quelle est la motivation à votre candidature, mais au vu de votre parcours, ça paraît évident. C'était une évidence pour vous ?
L'engagement écologique est une évidence. Ce sont des convictions qui m'habitent depuis, je pense depuis toujours, qui ont démarré, vous l'avez dit, par un engagement associatif et qui s'est prolongé ensuite par un engagement professionnel, puisque je suis éco-conseillère, hein, j'exerce le métier de conseil en environnement et développement durable depuis près de 15 ans. Et l'engagement politique, pour moi, c'était la continuité de cet engagement de toujours. Et ma candidature à la mairie de Strasbourg, elle est arrivée parce que l'urgence est là et que je considère qu'il faut agir plus, agir plus vite, accélérer. Je pense qu'on est dans une ville qui a une sensibilité écologiste déjà forte et qui a su être pionnière. Mais aujourd'hui, au regard des enjeux et notamment de l'urgence climatique, il faut absolument qu'on relève ce défi et que notre ambition aille plus loin.
Alors, est-ce que, enfin, moi j'ai une question par rapport à ça. L'écologie, on la retrouve dans le programme de l'ensemble des candidats. C'est aujourd'hui un thème d'actualité fort pour chacun. Par contre, est-ce que l'écologie, ça constitue un programme politique à proprement parler ?
Alors, c'est vrai que l'écologie est aujourd'hui au cœur de cette élection municipale et plus globalement, j'ai envie de dire, au cœur des préoccupations. J'allais dire des Françaises et des Français, mais plus largement dans le monde. Hein, ce sont des sujets d'actualité, c'est tous les jours, c'est l'Australie qui brûle, ce sont les tempêtes et les inondations, c'est un certain nombre d'espèces animales et végétales qui disparaissent. Donc je crois que ces questions-là, elles sont au cœur maintenant des repas de famille, de l'actualité. La question de l'écologie politique, pour moi, l'écologie politique, c'est un projet de société globale. Ça n'inclut pas que les questions environnementales. C'est comment est-ce qu'on arrive à un mode de développement équilibré entre, bien sûr, la nature et l'humain, mais aussi dans un respect des personnes. Comment est-ce qu'on défend les droits, et notamment les droits humains? Comment est-ce qu'on permet aussi aux citoyens et aux citoyennes de retrouver le pouvoir d'agir, et notamment au niveau local, qui je pense est le bon échelon pour pouvoir agir.
Alors, je rebondis sur ce que vous dites. Dans votre programme, hein, qu'on a étudié avec attention, on retrouve beaucoup la consultation des citoyens, etc. La question que je me suis posée, qui est une question naïve, hein, de citoyens de la ville, est-ce que tout ça, ça ralentit pas beaucoup quand même ? Enfin, Strasbourg est une grande ville. On a vu que la consultation, j'ai envie de dire systématique, hein, des citoyens, ça fait beaucoup, beaucoup traîner les projets. Est-ce que vous risquez pas de vous engluer dans une politique finalement qui va traîner en longueur et où la décision sera difficile à prendre, en fait?
Là où vous avez raison, c'est que les processus démocratiques et les processus de participation, ils demandent du temps. Alors, il ne s'agit pas de consulter dans tous les sens, mais moi, je pense que là où c'est un gage d'efficacité, c'est que quand on co-construit les politiques publiques avec les différents acteurs concernés, et j'ai pu le constater pendant mon mandat, eh bien, on aboutit à des politiques publiques qui sont plus efficaces, plus réalistes, mieux adaptées aux besoins du territoire et qui, de fait, vont être aussi mieux acceptées. Donc peut-être que ce temps qu'on investit au départ des projets, notamment pour fixer des grandes orientations, ce temps de partage et de co-construction va permettre ensuite d'aller plus vite. Et je préfère investir dans cette participation citoyenne et laisser ces espaces s'exprimer plutôt que d'imposer unilatéralement une politique publique ou des décisions qui seraient mal comprises, mal acceptées, sur lesquelles on devrait revenir par la suite. Et malheureusement, on a aussi quelques exemples de ce point de vue-là dans les dernières années.
Alors, je reviens toujours sur votre programme et je me disais, je vois que vous souhaitez financer en fait l'ensemble des propositions que vous faites par le lancement d'un grand emprunt de 350 millions d'euros sur 6 ans. À l'échelle de la ville, c'est des montants importants. À l'échelle de la ville, c'est quand même conséquent. Est-ce que, par exemple, c'est quelque chose sur lequel vous consulterez les Strasbourgeois ? Enfin, moi, j'habite Strasbourg, on a une fiscalité locale qui est quand même assez élevée. Est-ce que les Strasbourgeois, sur le papier, les propositions sont intéressantes ? En revanche, est-ce que vous interrogerez les Strasbourgeois pour savoir s'ils sont d'accord pour un financement et donc pour une hausse de la fiscalité locale ?
Alors, le grand emprunt dont vous parlez, de 350 millions d'euros sur 6 ans, il concerne la ville et l'Eurométropole. Et il n'engagera pas une hausse de la fiscalité, puisqu'il s'agit de capacités d'investissement des collectivités. Ce sont des propositions que nous avons étudiées en termes de faisabilité financière. On a constaté que la ville...
Pardon, je vous interromps. Il y a un retour sur investissement sur ces emprunts, c'est ça ? Vous allez faire des économies qui vont financer l'emprunt ?
Bien sûr. Je vais vous prendre un exemple très clair. C'est la rénovation thermique des bâtiments publics et privés. Aujourd'hui, si je parle seulement des bâtiments publics, on dépense chaque année 11 millions d'euros en énergie, en dépenses d'énergie. Et on sait qu'en rénovant nos bâtiments, et notamment les bâtiments municipaux et aussi eurométropolitains, en les isolant mieux notamment, en gérant davantage et mieux l'énergie, on pourrait économiser quelques millions d'euros par an. Donc l'investissement qu'on va faire, c'est un investissement pour les générations futures, c'est un investissement pour les prochaines années, mais qui va aussi permettre, vous avez raison, de dégager des capacités ensuite de fonctionnement, des économies en termes de fonctionnement. Donc c'est ville et eurométropole, et ça n'engage pas une hausse de la fiscalité. On est aujourd'hui dans une ville qui est peu endettée par rapport aux autres villes françaises, et en plus, bah, vous le savez, les taux d'intérêt sont très bas. Donc moi, je pense que c'est le moment d'investir pour les générations futures.
Justement, je vais revenir sur un point de votre programme avec l'objectif d'une ville zéro carbone et 100% énergie renouvelable en 2050. Ce sont des objectifs réalistes selon vous ?
Ce sont des objectifs non seulement réalistes mais indispensables. 2050, c'est encore loin. Je ne vous dis pas que ça ne va pas demander du travail. Évidemment, ça va demander du travail, mais on a enclenché déjà sous ce mandat une transition énergétique. La première des choses, c'est d'économiser l'énergie. C'est pour ça que je parlais de rénovation thermique des bâtiments. Et ensuite, c'est effectivement quelle source d'énergie. Et on a le plus intérêt possible à produire cette énergie localement et de la manière la plus propre. Donc cet engagement, il figure en fait dans le plan climat qui a été voté à l'Eurométropole. Et effectivement, ça va demander de déployer un mix énergétique. Alors, ce ne sera pas une seule source d'énergie. L'idée, c'est bien de diversifier nos sources d'énergie renouvelables, mais de s'extraire petit à petit, comme le font d'ailleurs les autres pays, des énergies fossiles.
Alors, on a beaucoup de questions, donc on va essayer de s'organiser un petit peu. On va parler peut-être du social dans votre programme. On reviendra à l'écologie, évidemment. Vous parlez de l'allocation universelle communale que vous souhaiteriez mettre en expérimentation. Alors, ça m'a fait penser, je ne sais pas si c'est un petit peu du même ordre que ce que proposait Benoît Hamon à l'élection présidentielle. C'est ça, si vous pouvez développer un petit peu cette...
Oui, alors il s'agira d'une expérimentation que là aussi, il faudra construire avec les acteurs et notamment les acteurs de la solidarité et de la lutte contre la précarité. On s'inspire de territoires innovants. Je pense à la commune de Grande-Synthe. Vous avez peut-être entendu parler du maire Damien Carême qui avait imaginé un dispositif vraiment intéressant. Alors là aussi, je vais faire le lien entre écologie et social. En fait, en économisant de l'énergie sur les bâtiments municipaux, ce que je vous expliquais tout à l'heure, il a dégagé des financements qu'il a décidé de réinvestir dans le social pour les personnes qui étaient sous le seuil de pauvreté. Et il a développé une allocation municipale qui est en fait une aide qui va venir en complément des minima sociaux pour que les personnes, à minima, dépassent le seuil de pauvreté. Évidemment, la ville ou l'Eurométropole de Strasbourg, on est sur un bassin de vie et de population bien supérieure à la commune de Grande-Synthe. Donc l'idée, ce n'est pas de le généraliser tout de suite, c'est plutôt de lancer une expérimentation, soit à l'échelle d'un quartier prioritaire de la ville, soit en fonction de différents publics cibles, et ça, on construira avec les acteurs du social.
Mais moi, j'ai une remarque par rapport à ça. Il y a des minima sociaux, vous l'avez dit, vous voulez les compléter. Enfin, à partir du moment où vous les complétez, vous ne risquez pas d'arriver finalement presque au revenu au SMIC, quoi, et que les gens ne soient pas poussés à travailler. Enfin, voilà, c'est la réflexion que je me fais, parce que vous avez l'AAH aujourd'hui, c'est 900 euros par mois. Si vous la complétez, vous allez arriver très très rapidement quasiment à un SMIC, quoi. Donc vous voyez ce que je veux dire, est-ce que c'est pas après le pendant de ce type de mesure, en fait?
Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est des inégalités très très fortes dans notre ville, et on est l'une des villes les plus inégalitaires de France. Et malheureusement, les tendances, c'est que ces inégalités, elles se creusent avec les années. Donc en gros, les personnes les plus riches deviennent de plus en plus riches, les personnes les plus pauvres deviennent de plus en
juste,
plus
juste en aparté,
c'est,
25%...
C'est pas propre à Strasbourg, ça.
25% de la population de Strasbourg vit sous le seuil de pauvreté.
Exactement. Et donc, c'est pas propre à Strasbourg, c'est vrai. Mais par contre, on voit qu'on est l'une des villes les plus inégalitaires de France, ce qui n'est pas forcément toujours l'image qu'on peut avoir de notre ville. Et je pense que le rôle d'une municipalité, alors pas seule, ça se fera avec le département ou la future collectivité européenne d'Alsace qui est en charge des questions sociales et notamment des minima sociaux. Ça se fera évidemment avec l'État et puis avec les différents acteurs. Mais je pense qu'on a un rôle à jouer, et il s'agit de tester des dispositifs pour voir si justement, le pari qu'on fait, c'est qu'en permettant aux gens d'avoir une vie digne, c'est-à-dire un toit sur la tête, de quoi s'alimenter, avoir accès à des services publics minimum qui leur permettent d'avoir une vie digne. Le pari qu'on fait, c'est de donner la possibilité d'un tremplin, en fait, vers une meilleure inclusion dans la ville, qui permette au contraire aux personnes de rebondir et d'être mieux intégrées, parce qu'on constate énormément d'exclusion.
C'est une façon de remettre le pied à l'étrier aux personnes qui en ont besoin. Ce n'est pas forcément une allocation pérenne.
Ce sera vraiment, non pas au cas par cas, mais ce sera vraiment à tester. Je pense que ça n'a pas été encore fait à l'échelle d'une grande ville, et ça fait partie des innovations que nous entendons mener.
Alors on parlait... Excuse-moi Patrick,
je t'en prie.
On parlait justement de toi sur la tête, de logement social peut-être. Quelle est votre vision, vous, des quartiers de Strasbourg, des quartiers qu'on dit sensibles, avec une population qui n'est pas délaissée, mais qui peut peut-être se sentir délaissée, et qui vit peut-être avec un communautarisme très fort? Quelles seraient vos premières mesures que vous mettriez en place dans ces quartiers-là?
Peut-être de rééquilibrer les choses en matière de services publics, de services de proximité. On a quand même de nombreux quartiers à Strasbourg. Je pense au quartier de l'Elzo. Aujourd'hui, vous n'avez pas de commerce. Vous n'avez quasiment plus de services publics. Vous n'avez même pas de guichet de banque pour aller retirer de l'argent. Et donc, vous êtes obligé soit de prendre votre voiture pour aller faire des courses ailleurs. En tout cas, vous ne pouvez pas avoir à proximité dans votre quartier de quoi vivre. Donc,
si les commerces ne sont pas présents dans ces quartiers, c'est que la rentabilité... on est dans un domaine marchand, finalement. Ça veut dire que certainement, la rentabilité n'y est pas. Donc, vous allez créer des commerces en les subventionnant. Comment on fait pour mettre des commerces dans les quartiers?
Il y a souvent un problème d'insécurité aussi, des commerçants qui se font agresser.
Aujourd'hui, on a un très bel outil qui s'appelle la Locusem, qui est une société d'économie mixte qui a été créée à l'initiative de Catherine Trottmann en 2010, et qui réunit les collectivités, mais aussi les bailleurs sociaux et un certain nombre d'investisseurs, plusieurs banques, et qui finalement décident, justement parce qu'ils font le constat qu'il est difficile d'implanter, avec un bon modèle économique, d'implanter des commerces dans les quartiers prioritaires de Strasbourg. Et bien, cette immobilière solidaire dans laquelle la ville et l'Eurométropole ont départ, va pouvoir donner un coup de pouce, c'est-à-dire qu'elle va acheter certains locaux commerciaux et permettre de les louer à un tarif modéré pour, par exemple, des très petites entreprises, des entrepreneurs qui voudraient s'implanter dans les quartiers, des activités d'économie sociale et solidaire. Je trouve que c'est un bel outil qu'on a utilisé, mais qu'on pourrait encore utiliser davantage. Et clairement, on doit revoir cette politique commerciale de proximité dans l'ensemble des quartiers de Strasbourg. Les commerces ne peuvent pas être juste concentrés en centre-ville. On a besoin, et en plus, ça répond, vous le savez, à une évolution sociétale qui consiste à dire que les gens, ils ont plus très envie de prendre leur voiture pour aller dans des zones commerciales en périphérie de ville. Et ils ont plus envie d'avoir accès à des commerces juste à côté de chez eux.
Alors sur le social, vous parlez de reconquête des logements vacants. Moi, la première réflexion que je me suis fait, c'est partout où des réquisitions sur les logements vacants étaient mises en place, notamment à Paris à une certaine époque, quelques temps, on n'en parle plus trop aujourd'hui, ça n'a jamais fonctionné. C'est beaucoup trop compliqué, les procédures pour contraindre les propriétaires à louer ou à mettre à disposition leur logement durent très longtemps et n'aboutissent quasiment jamais. Comment vous comptez faire ? C'est aussi le même principe ? Vous voulez réquisitionner les logements qui ne sont pas loués ?
Non, il ne s'agit pas de réquisitionner, il s'agit de mettre en place, d'ailleurs ça a été lancé, donc ce qu'on souhaite faire c'est poursuivre en fait ce qui a été amorcé par un certain nombre d'ailleurs de mes colistiers, c'est de poursuivre le dispositif qui était innovant en France de remise sur le marché de logements vacants. C'est aujourd'hui un dispositif qui a permis de remettre sur le marché 250 logements vacants. Et l'objectif, c'est d'aller plus loin, puisqu'on en identifie, je crois, sur l'Eurométropole, ça doit être autour de 3000 logements vacants. Et on sait qu'on est sur un marché tendu du point de vue du logement. À Strasbourg, on manque de logements. Et évidemment, il faudra continuer à construire, parce que ça répond à des besoins. Mais dans une logique, j'allais dire, un peu de bon sens, réutiliser les logements aujourd'hui vacants, c'est essentiel. Mais c'est vrai que ça demande un travail dans la dentelle entre différents partenaires, parce que souvent les propriétaires qui ont un logement vacant, c'est pour plein de raisons différentes. Ça peut être qu'ils n'ont pas les moyens de rénover leur appartement et de le mettre aux normes.
Vous faites du porte-à-porte, vous allez voir les gens, vous essayez de voir comment on peut trouver des solutions pour finalement valoriser leur logement.
C'est d'avoir une chaîne d'acteurs, de vraiment des notaires en passant par des professionnels de la rénovation qui vont pouvoir accompagner les propriétaires dans la remise sur le marché de leur logement. Et donc ça donne du souffle au marché ensuite locatif sur Strasbourg, et on en a bien besoin. Donc c'est un dispositif qui marche, nous voulons poursuivre et amplifier.
Alors à Strasbourg, comme dans beaucoup d'autres grandes villes françaises, on a ce problème de gentrification, de quartiers périphériques qui étaient dits populaires, qui se gentrifient, donc dont les loyers augmentent avec beaucoup de locations, je le disais, à loyers plus élevés, et de Airbnb. On a aussi ce souci-là à Strasbourg, avec une ville très touristique. Et comment est-ce qu'on peut agir là, à ce niveau-là, pour rendre l'habitat populaire au plus près de Strasbourg ?
C'est une vraie question qui touche de nombreuses villes en Europe et dans le monde. Alors, on n'en est pas encore au cas de Venise ou de Barcelone, mais ceci dit, on constate, c'est vrai, une tendance à cette gentrification et au fait qu'il est difficile pour des familles de rester en centre-ville ou dans certains quartiers de Strasbourg, tellement les prix augmentent. Donc là-dessus, on a plusieurs leviers. Vous avez évoqué le phénomène Airbnb. Alors il ne s'agit pas d'empêcher des personnes qui vont louer une fois de temps en temps une chambre chez eux de le faire. Par contre, quand il s'agit de phénomènes massifs et de réelles dérives avec des investisseurs qui vont acheter un immeuble entier et le louer sous forme de Airbnb avec des prix extrêmement élevés, ça déstabilise complètement le marché. Donc là, ce qu'on propose, c'est déjà un contrôle plus fort, de faire respecter davantage la loi, puisque c'est encadré au niveau national. Mais c'est aussi de travailler avec les copropriétés dans le fait d'intégrer une autorisation systématique de la copropriété pour accepter qu'il puisse y avoir un logement ou des logements Airbnb
dans l'immeuble. C'est pas déjà le cas, ça ? Je crois que la copro doit donner un accord pour que...
Alors, c'est il y a eu une délibération qui allait dans ce sens, mais aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas, c'est de l'intégrer systématiquement dans les nouvelles opérations pour que ce soit automatiquement dans le règlement de copropriété. Donc là-dessus, il faut aller plus loin. Et ensuite, on a un autre levier qu'on n'a pas eu à actionner pour l'instant, qui est la possibilité d'encadrer les loyers dans certains quartiers si vraiment on constate une envolée des prix. C'est un dispositif légal qui existe avec la loi Allure et la loi Elan, qu'on peut actionner le cas échéant si vraiment on constate une envolée des prix.
Alors on va entrer sur le territoire de l'écologie, qui est votre territoire de prédilection, mais j'avais juste une dernière question concernant... J'ai découvert, j'étais très surpris que les écologistes, en fait, souhaitaient limiter l'extension des villes. Pardon, hein, je suis un peu naïf dans le domaine. Et du coup, évidemment, la réflexion que je me suis faite, c'est si on fait ça dans une ville comme Strasbourg, qui est une grande ville et qui a évidemment vocation à se développer en nombre d'habitants, on étouffe déjà beaucoup dans la ville à certaines périodes. On parle beaucoup de rendre la ville plus verte. Ça veut dire, dans les faits, que la ville va se densifier si vous ne lui permettez pas de s'étendre, finalement. Alors, je ne comprends pas bien cette politique. Enfin, la ville n'est pas entourée de champs, à ma connaissance, ici. Peut-être, si, quand on va à Vendenheim, il y a encore des champs, si. Mais en tous les cas, voilà. Est-ce que ce n'est pas le risque, en limitant l'extension, finalement, vous allez créer une grande densification de population, et du coup, vous aurez encore plus de difficultés à mettre des zones vertes, sauf à mettre des jardins sur les toits ou je ne sais quoi, mais enfin voilà, c'est la réflexion que je me suis fait en tant que novice en écologie.
Vous avez posé un certain nombre de paramètres de l'équation, qui est l'équation de toutes les grandes villes en 2020. Comment limiter l'étalement urbain, puisqu'on sait qu'on va avoir besoin des terres agricoles qui entourent nos agglomérations, si on veut travailler à une agriculture plus locale et de qualité. Comment est-ce qu'on remet de la nature en ville et des espaces de respiration, et comment on permet surtout à nos villes d'être encore vivables dans quelques décennies. Je pense que vous le savez, les scientifiques nous prédisent des pics de chaleur à 54 degrés en 2050 à Strasbourg. 54 degrés, enfin, on a vécu la dernière canicule l'été dernier, vous y étiez comme moi, du 42 degrés, c'est déjà insoutenable, et pour des personnes fragiles, pour des enfants, pour des personnes âgées, des personnes malades, c'est tout simplement invivable. Donc là, on a une responsabilité en tant que responsable politique, de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger la population. Et ça demandera bien évidemment de remettre de la nature en ville. Et le dernier élément de l'équation que vous avez posé, c'est la demande de logement. Et bien, comment on répond à ça? Et bien, en développant une nouvelle forme d'urbanisme. Il va falloir être créatif avec l'ensemble des acteurs. J'étais il y a trois jours à un forum et un débat organisé par la Fédération des promoteurs immobiliers. Il y a beaucoup été question de ce sujet, puisque les professionnels ont bien conscience qu'ils vont devoir, quelque part, faire évoluer leur métier, réinventer la manière d'aménager la ville pour aller vers un urbanisme résilient. Et donc, ça signifie quoi? Ça signifie, bien sûr, ce qu'on a dit tout à l'heure, rénover l'existant, remettre sur le marché des logements vacants. Mais pour ce qui est des nouvelles constructions, si on ne peut pas s'étaler et faire en sorte que notre agglomération elle s'étende, puisqu'à un moment on atteint les limites tout simplement du territoire, il va falloir peut-être réfléchir à surélever certains bâtiments. Ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir besoin de dégager de l'espace public pour avoir des continuités vertes qui permettront cette protection par la nature, des façades végétalisées, des toitures végétalisées. En fait, on est en train d'inventer un nouvel urbanisme résilient pour les prochaines décennies.
Celui qu'on trouve en face de la place de l'Étoile à Strasbourg, ça correspond à ce que vous souhaitez mettre en place en termes d'urbanisme montant?
C'est pas ce que j'appellerais un urbanisme résilient.
Et d'ailleurs, là pour le coup, on a de la hauteur. Hein, mais
on a de la hauteur,
on a
de la couleur, on a pas de verdure.
J'habite on a des
pas
rues très étroites, hein, donc pour mettre de la verdure, ça va être compliqué.
J'habite pas très loin, donc je peux en parler. On a une avenue qui est très très fréquentée avec un gros trafic, et on a finalement énormément de surfaces qui sont artificialisées, qui sont aujourd'hui minérales, et qui génèrent ces îlots de chaleur dont on parle beaucoup aujourd'hui.
Bien sûr.
Et qui génèrent aussi, parce qu'on parle beaucoup des canicules, parce qu'on les a en tête, mais il y a aussi les inondations lors des tempêtes. qui vont être de plus en plus fréquentes. Donc on a besoin absolument de déminéraliser notre ville. Donc l'exemple que vous citez...
C'est vous étiez opposé à ce projet pendant, d'après le précédent mandat, vous y êtes opposé à ce projet ?
Alors, pendant le précédent mandat...
Parce que vous étiez aux responsabilités. Je ne connais pas les votes, hein, ce n'est pas une question piège. Je vous demande juste si, à un moment, vous avez pu vous y opposer. Je sais aussi qu'il est compliqué, quand on est dans une majorité, de prendre une position divergente. Mais est-ce que c'est quelque chose qui était une sensibilité pour vous, de dire non, ça ne va pas, etc. On peut avoir des divergences politiques. Il y a une unanimité, je pense, de la population pour dire que ce quartier est absolument horrible. Horrible, les rues sont très étroites, il n'y a pas un gramme de verre sauf des petits jardins artificiels qu'on a mis pour faire plaisir. Moi j'ai visité, c'est affligeant.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de, critiques sur ce quartier et sur d'autres.
Spéculation immobilière en plus, parce que la plupart de ces appartements sont reliés à des lois qui permettent de défiscaliser. Donc là, on a vraiment fait le tour. Hein.
Moi, je pense que sur le mandat passé, il y a eu un certain nombre d'avancées, mais il y a eu aussi des limites. Si vous parlez des écologistes, on était minoritaire dans cette majorité, donc il est clair qu'on n'avait pas l'ensemble des leviers. Donc il ne s'agit pas de rejeter tout ce qui a été fait. Moi, je considère qu'il y a eu des avancées. Il y a eu aussi une volonté de répondre à cette demande de logement qui était forte. Mais il est clair qu'aujourd'hui, en 2020, l'urbanisme du futur, il doit évoluer et prendre en compte les nouveaux enjeux. Et je pense que ça a insuffisamment été le cas jusque-là. Et c'est pour ça que je propose une nouvelle vision de cet aménagement, avec beaucoup plus d'espace de respiration, beaucoup plus de nature, mais aussi le fait de libérer de l'espace public. Peut-être de voir autrement nos modes de déplacement dans la ville et d'aller davantage vers de la place accordée au transport collectif, au vélo et à la marche.
On n'aura pas le temps d'aborder l'écomobilité. On voulait parler du GCO aussi. Ça va être compliqué, à moins que vous pouvez en parler en deux mots.
Bah écoutez, c'est un projet auquel j'étais opposée, qui pour moi est un projet d'un autre siècle.
Et il n'y aura pas moyen de faire marche arrière.
Mais
de
aujourd'hui,
toute façon.
Le chantier est extrêmement avancé. Donc la question, ce n'est pas tellement maintenant le GCO, c'est plutôt après avoir passé beaucoup d'énergie et de temps et de l'argent sur un projet autoroutier, comment est-ce qu'on finance et comment est-ce qu'on met en œuvre des alternatives ?
On va parler de votre liste aussi, Patrick.
Oui, on va parler de la liste, on va parler politique un petit peu. Moi, j'ai pris le dernier sondage IFOP, opinion Nouet, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et je vois EELV-PCF. Donc voilà, j'étais un peu surpris. Encore une fois, j'avais le sentiment que les écologistes étaient plutôt proches du Parti Socialiste. Du coup, c'est propre à Strasbourg ou c'est un mouvement plus national de rapprochement d'une gauche un peu plus à gauche, disons ?
Vous étiez surpris de voir un sondage intitulé EELV-PCF, moi aussi, parce que je conduis une liste de rassemblements larges.
C'est peut-être parce qu'il y a quelques candidats qui sont issus du PCF qu'ils ont mis ça ?
Alors, ma liste, c'est une liste de rassemblements, c'est une liste d'ouverture, avec des personnes,
parler, ouais.
Des personnes c'est vrai, qui peuvent faire partie d'un certain nombre
plutôt
de
formations
politiques, donc plutôt à gauche, Europe Écologie Les Verts. Des personnes du Parti communiste, des personnes de place publique, des personnes qui sont passées par génération, des personnes du mouvement régionaliste progressiste, mais aussi une grande majorité de femmes et d'hommes qui sont engagés dans la ville depuis des années, du point de vue associatif, professionnel, syndical, et qui ne sont pas affiliés à une formation politique. Donc, dire liste
EELV-PCF,
c'est très très réducteur.
D'accord, ok, donc vous n'êtes pas forcément en phase avec cette appellation. Alors ici on est sur Radio Judaïka, donc on a un auditoire très large, et d'ailleurs on pense qu'il est bien au-delà de la communauté, on pense même qu'on est plus écouté à l'extérieur qu'à l'intérieur, et c'est quelque chose qui nous fait plutôt plaisir. Néanmoins, pour dire les choses de manière cash, pour nous, pour la communauté juive, la liste verte est souvent très à gauche. Qui dit très à gauche et qui dit extrême gauche dit, en général, antisionisme. C'est un peu la définition schématique qui se passe. Et quand on dit antisionisme dans la communauté juive, on arrive très rapidement à la définition de l'antisémitisme. Quelle est votre position par rapport, peut-être de manière, on n'a plus beaucoup de temps, mais rapide, par rapport à la communauté juive? Est-ce que c'est tout simplement une question simple? Est-ce que vous connaissez un peu le monde juif à Strasbourg? Quelle est votre position par rapport à Israël? Comment vous pouvez peut-être éclaircir ça et enlever les préoccupations ou les inquiétudes que peuvent susciter votre liste?
Bah, d'abord de dire qu'il serait complètement... j'allais dire, il ne serait pas juste de dire que nous sommes une liste d'extrême gauche. Absolument pas. Nous avons une liste de rassemblements très ouverte avec un spectre, je pense, de sensibilité politique qui est extrêmement large et avec des personnes effectivement connues pour leur engagement à gauche, mais des personnes peut-être de sensibilité, j'allais dire, plus centriste. Aujourd'hui, l'écologie, les questions écologiques, les questions sociales et les questions démocratiques, elles dépassent largement le spectre des partis politiques.
Vous êtes pour le boycott des produits issus des territoires palestiniens ?
Non, absolument pas. Ça n'est pas ma position. Moi, j'ai toujours été très claire dans ma lutte contre l'antisémitisme, dans ma lutte contre toute forme de discrimination. C'est le projet que porte la liste que je conduis. Et je suis très attentive à ce que ce soit le cas.
Ah, une dernière petite question sur une de vos colistières. Il s'agit d'une dame qui s'appelle Khadija Benhamou. Il y a beaucoup d'interrogations sur cette dame. Semblerait-il qu'elle soit proche du BDS. J'ai vu un post, alors je ne sais pas, après il faudrait l'authentifier, qui montre qu'elle soutiendrait Tariq Ramadan actuellement. Qu'est-ce que... Je vous pose la question parce que quand j'ai parlé de votre liste, ça m'est revenu plusieurs fois, donc je préfère vous le dire de manière claire. Quelle est votre position par rapport à ses propres positions? Est-ce que... voilà, la question est...
Ben moi, je vous ai répondu, je ne cautionne pas. Je crois qu'elle a elle-même beaucoup évolué sur ses positions. J'ai pu poser les choses avec elle. Et comme
d'accord,
je
c'est
l'ai
quelque
dit,
chose que vous avez clarifié avec
bien
elle.
Bien sûr, je considère, d'accord, comme je vous l'ai dit, que ma liste doit être claire sur ces questions. Et j'en suis garante.
Parfait, merci beaucoup.
Jeanne Barseguian, donc tête de liste d'Europe Écologie Les Verts, merci infiniment. Et puis rappel
merci à
nos auditeurs, rendez-vous aux urnes, ce sera les 15 et 22 mars.